France Inter.
Ce dimanche, Interception vous plonge dans deux quotidiens qui ont assez peu de chances de se rencontrer un jour. Nous sommes même dans deux mondes. À la ville d'abord, dans la peau de musulmans ordinaires qui passent une grosse partie de leur temps à esquiver les insultes. À la campagne, avec deux femmes qui, elles au contraire, parlent exactement le même langage. Alors c'est quoi être musulman en France? Qu'est-ce que ça veut dire de naviguer entre les micro-agressions, une remarque gratuite dans les transports en commun sur un voile, ou de vraies insultes qui finissent souvent dans l'indifférence d'un commissariat? Ce que nous allons raconter aujourd'hui, c'est l'islamophobie ordinaire, celle qu'on balaye trop souvent en disant « ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse », et puis on passe à autre chose. Alors bien sûr, on ne va pas faire comme si on ne savait rien de tout ce qui secoue la France depuis des mois, les agressions liées à la religion, les musulmans, les juifs, on sait très bien d'où cela vient, on a tous passé le même 7 octobre, on a vu les chiffres grimper en flèche, on a vu l'atmosphère de ce pays se pourrir. On sait aussi que la parole raciste a des relais médiatiques très décomplexés. Et on a appris récemment, grâce à un sondage IFOP, que les jeunes musulmans avaient de plus en plus besoin de se tourner vers une version plus rigoriste de leur religion. Or, l'une des explications, c'est bien la discrimination au quotidien. Ce qu'on va traverser dans ce reportage, c'est la banalisation de l'inacceptable. Et cette banalisation, elle n'a pas besoin de contexte, pas plus qu'elle n'a attendu de se faire rattraper par une géopolitique lointaine. Cette islamophobie ordinaire, elle vient de bien plus loin, elle est régulière, gratuite et douloureuse.
Interception. Fabienne Synthèse sur France Inter.
Il m'a adressé des mots, sale arabe, sale musulman, c'est nous qui vous payez le loyer, c'est nous, c'est pas nous, vous n'existez pas. Vous voyez, des mots vraiment qui touchent. Ça m'a changé toute ma vie. J'ai reçu vraiment des mots qui m'ont fait mal.
Vous allez comprendre dans ce reportage pourquoi c'est très difficile à quantifier les actes islamophobes. Mais on sait quand même, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, qu'ils ont bondi de 75% les 6 premiers mois de 2025. 8 musulmans sur 10, ce sont les chiffres de la mosquée de Paris, affirment avoir été victimes de racisme ces 5 dernières années. Paroles de musulmans très ordinaires, victimes d'islamophobie très ordinaire. Avec Vanessa Descoureaux.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Merci à vous.
Merci de me recevoir.
C'est très bien, il n'y a pas de souci.
Même si tu m'as dit de faire couler le café tout à l'heure, j'ai attendu quand même.
Non, t'as bien fait.
C'était un frappuccino après.
Alors, je m'appelle Ounasser Redouane, je suis un petit auto-entrepreneur. Voilà, j'ai 48 ans, papa, marié, voilà.
Et musulman en France, qu'est-ce que c'est que d'être musulman ici dans ce pays ?
Il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup de haine, beaucoup de choses qui ne doivent pas se dire. J'ai des exemples assez concrets de la part de mes enfants, que ce soit au niveau scolaire ou...
Comme quoi, dites-moi.
Un exemple, moi j'ai une fille qui était en première il y a 3 ans, maintenant elle est en fac. Elle avait eu une super note en note d'allemand, la meilleure note de la classe, et la prof lui a dit « Toi, ça se voit que tu as triché. C'est pas possible que toi, tu puisses avoir une note comme ça, parce que comme tes parents ils sont d'origine maghrébine, tu ne peux pas parler allemand. » Là où elle s'est plantée, c'est que ma mère, elle a fait 15 ans d'études à Düsseldorf. Et que moi, je suis né en Moselle. Et que j'étais dans une école allemande. Et que j'étais avec des prêtres allemands qui m'ont appris à parler allemand. Donc à un moment, si ma fille n'arrive pas à avoir une bonne note en allemand, il y a un problème quelque part. Bon, il y a eu des excuses après, mais le toi, c'est dur d'entendre ça.
C'est toi l'arabe,
ouais,
tu ne peux
l'arabe,
pas.
Toi l'arabe, et puis moi, même personnellement, hein, il n'y a plus de vivre ensemble. Le fameux vivre ensemble, la fameuse liberté, égalité, fraternité française que j'ai connue le temps de mon enfance. Maintenant, on fait peur aux gens.
Donc ça régresse, la situation régresse.
Totalement. Si vous voulez des petits exemples concrets, il y a à peu près 6 mois, je me suis fait traiter de au feu, là. J'étais dans
juste
mon droit,
devant votre
là,
salon.
Là,
ouais.
J'étais dans mon droit pour passer à gauche. Une voiture m'a grillé la priorité, un garçon d'une vingtaine d'années avec sa copine, il m'a dit « Dégage au bled, sale bougnoule !»
Votre bled, c'est la Moselle.
Et moi, je suis né à Forbach. Oui, c'est dérangeant et on ne va pas se le cacher. Là, il y a une montée de racisme et d'extrémisme très dangereuse à l'égard des musulmans. Moi, je n'ai pas peur, moi. Mais pour mes enfants, j'ai peur. J'ai peur pour ma mère. Ma mère s'est fait agresser, 78 ans, elle a bac plus 6. Elle est allée à faire ses courses à Leclerc. Elle porte un voile maintenant, elle est âgée, elle sent qu'elle veut porter son voile. Elle le porte et s'est fait traiter de sale bougnoule, retourne au bled. Pourtant, elle est née en Allemagne. C'est très difficile. Hein.
Est-ce qu'on va porter plainte? Est-ce que votre maman a songé à porter plainte pour avoir entendu « sale bougnou, le retourne au bled »
C'est fini. Une fois, j'ai assisté au tribunal à un sketch, en fin de compte, en plein tribunal. J'avais l'impression que j'étais dans une pièce de théâtre.
C'était quoi le contexte?
Il y a eu une agression de la part d'une équipe de rugbyman sur des jeunes basketteurs d'origine maghrébine et noire. Devant un bar, ils se sont fait taper, casser le nez, fracasser comme il faut. Ils ont porté plainte, ils ont pris un avocat au tribunal. L'avocat de la défense des rugbyman a dit, il a dit sale arabe comme il a dit sale connard. Voilà. Sale musulman comme il a dit espèce de con. Et le juge a dit oui, c'est vrai. Il était énervé, il ne pensait pas ce qu'il disait. Ils l'ont défendu au tribunal.
Et le caractère raciste n'a pas été retenu ?
N'a pas été retenu du tout. Ça décourage énormément.
Il y a la salle tout à l'heure ici. Les deux sont venus en rentrant. Là-bas.
Les derniers chiffres officiels font état de 145 actes islamophobes entre janvier et fin mai 2025. Ce qu'il faut préciser, c'est que seuls les actes les plus graves, les plus importants, sont collectés par les forces de police. Ce qui fait qu'au final, eh bien, ces chiffres sont plus une tendance, à vrai dire, qu'une photographie précise de l'état de ce racisme en France. C'est ce que va nous expliquer Nona Maier. Elle est chercheuse en sciences politiques et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Bon, ces chiffres, ils semblent bien minimes comparés à l'inquiétude des musulmans de France, telle qu'elle ressort des sondages et des entretiens. Mais je dirais que c'est un problème plus général. Chaque fois qu'il s'agit de déclarer des agressions ou des insultes racistes de tous ordres, les estimations, quand on fait des enquêtes de victimation, toutes minorités confondues, c'est de l'ordre de 3 ou 4% des personnes qui vont porter plainte. Mais je dirais qu'il y a une spécificité des musulmans de France qui fait que ces chiffres sont encore plus sous-représentés que pour les autres minorités. C'est assez récent, le calcul des actes anti-musulmans. Ça commence en 2010.
Seulement.
Alors que pour le reste, on a des chiffres qui remontent aux années 1990 pour toutes les autres minorités. Et en plus, si je prends par exemple les Juifs de France, il y a eu très tôt une coopération solide entre le service de la police, qui est la Direction nationale du renseignement territorial, et le service de protection de la communauté juive, qui avait été établi au lendemain de l'attentat terroriste contre la synagogue de la rue Copernic en 1980. Or, quand il y a eu le Conseil français du culte musulman, une coopération semblable avait commencé à se mettre en place. Mais depuis quelques années, le CFCM s'est dissous. Et donc là, on n'a plus d'interlocuteurs permettant de compléter le recueil de ces données. Il y a un cumul de handicaps pour saisir véritablement, prendre la mesure des actes, des menaces, des violences dirigées contre les musulmans de France, qui tiennent à la fois à la manière dont on recueille ces chiffres, à l'absence de coopération entre des associations représentatives du monde musulman et la police, et au contexte actuel qui stigmatise tout particulièrement cette population et qui fait qu'ils auront peut-être plus de mal que d'autres à pousser la porte d'un commissariat.
Mais il y a une autre donnée chiffrée qu'il faut peut-être relever, c'est la progression d'année en année.
Disons que ça monte et que ça descend. Si vous regardez la courbe sur le long terme, on ne peut pas dire qu'il y a une montée continue des actes anti-musulmans. En fait, ils remontent chaque fois qu'il y a des attaques terroristes commises au nom du djihad. Et le maximum, on est à plus de 429. C'est fin 2015, après la série d'attentats de l'année 2015. Et ça remonte à chaque fois. Et donc, c'est remonté après le 7 octobre, juste après l'attaque terroriste du Hamas en Israël. C'est remonté. Donc, ces attaques terroristes, c'est un des ressorts. L'autre élément, c'est chaque fois qu'il y a des faits divers, des agressions, qui impliquent des personnes issues de l'immigration, donc présumées musulmane, compte tenu de notre histoire coloniale. Et là, quand il y a eu en 2023, la nette montée des actes anti-musulmans, elle est liée à la fois à ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est concentré dans les trois derniers mois de l'année, mais c'est aussi une année où il y a eu des violences urbaines suite à la mort de Nahel Merzouk, tué par un policier dans sa voiture. Il y a eu aussi les émeutes, les frictions entre bandes quand il y a eu l'assassinat du jeune Thomas Perotto à Crépol. Et tout cela fait qu'on stigmatise les musulmans comme s'ils étaient responsables de toutes ces violences.
Pour documenter l'ampleur de ces actes islamophobes, une toute nouvelle plateforme de signalement vient d'être lancée. C'est l'ADAM qui est à l'origine de ce projet. L'ADAM, c'est l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans. Et nous allons en rencontrer le président. Il s'appelle Bassirou Camara et nous sommes pour ça à Albi, dans le Tarn.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue. Monsieur. Où est-ce qu'on va là ?
Au bureau de l'association. C'est un bureau qu'on partage avec notre association locale, qui est l'association Agir, l'association qui œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville.
Et nous voici dans votre bureau.
Voilà. Bienvenue. Je m'excuse par avance, nous avons des voisins un peu bruyants.
Ce sont des enfants, c'est normal, c'est la vie.
On a voulu simplifier cette première étape à franchir, qui n'est pas simple pour beaucoup de personnes de religion musulmane.
Pourquoi c'est pas simple ?
Les personnes se disent à quoi bon porter plainte, parce que de toute façon, il ne se passera rien. Certains, c'est par méfiance ou défiance par rapport aux forces de l'ordre. Donc il y a un effort de pédagogie à faire, autant au sein de la communauté musulmane, mais aussi auprès des services de l'État, des forces de l'ordre, pour que ces victimes soient bien reçu. Dans ce cadre-là, on a une discussion claire et franche avec la Direction générale de la Police nationale, la Direction générale de la Gendarmerie nationale, la Direction nationale des renseignements territoriaux, pour essayer de couvrir tous les angles lorsqu'il s'agit des questions de sécurité de nos lieux de culte et de la lutte contre les actes anti-musulmans.
Comment éviter, à l'inverse, le trop déclaratif ? Comment éviter ça, ce piège-là qui peut en être un ?
Bien sûr. À ce titre-là, l'association d'âme a fait l'effort de se doter d'un comité juridique qui est chargé de la qualification. Les personnes ont toute liberté à faire des signalements, mais l'association Adam se réserve le droit et l'objectivité de vraiment faire le tri et que la qualification adéquate puisse être effectuée.
Ce type de plateforme existe ailleurs, chez nos voisins par exemple ?
Le meilleur exemple, c'est la plateforme de Tell Mama pour l'Angleterre, qui est une association qui existe depuis 2012, vraiment avec des moyens colossaux. Comparé aux moyens dont nous on dispose, du coup, les résultats et la collaboration avec les services de l'État n'en est que plus forte. Ce type de plateforme existe aussi en Allemagne, mais ne serait-ce qu'au niveau national. Nous, lorsqu'on est arrivé sur le segment, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre. Le SPCJ fait aussi un travail remarquable pour ce qui est. Voilà, c'est une association sœur qui recense les actes antisémites. Et donc, ils ont développé une plateforme qui fait un boulot remarquable. On est parti à leur rencontre pour s'inspirer de ce qu'ils faisaient et essayer de le transposer dans le contexte qui est le nôtre.
Depuis le lancement de cette plateforme, est-ce que vous êtes vous-même surpris par la violence de certains témoignages, par le nombre, le volume de ces agressions, de ces signalements ? Est-ce que vous-même vous êtes surpris de tout ça ?
Absolument. Avant même le lancement de la plateforme, on recevait déjà des signalements. Il y avait des personnes qui utilisaient le formulaire de contact de notre site internet pour nous signaler des actes.
Pour dénoncer
les actes. C'est pas qu'on est blasé, mais on en entend des vertes et des pas mûres. Mais ce qui nous choque, c'est que les personnes aient gardé peut-être ce sentiment-là ou alors cette discrimination-là pendant plusieurs jours sans savoir à qui en parler, sans savoir comment en parler. Aujourd'hui, c'est la plateforme apporte cette écoute-là. Parce que le pire, la deuxième souffrance, c'est d'être victime d'une discrimination et de ne pas pouvoir l'exprimer.
On ne peut plus être arabe et porter une barbe à la télévision.
Sabrina Sebaï.
Ni porter un voile sur un terrain de basket et bientôt même dans la rue.
Rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale, mars 2025.
Demain, on ne pourra même plus scolariser ses enfants dans un établissement privé musulman. Le cas de l'école Al-Kindi est à ce titre emblématique quand on voit les Bétaram et Stanislas qui continuent à broyer les élèves en toute impunité. In fine, ce sont les musulmans que l'on souhaite faire disparaître de l'espace public au nom du principe de laïcité.
Alors parfois, il y a des agressions beaucoup plus graves qui donnent lieu, elles, à des plaintes. Et c'est ce qu'a fait précisément Abdallah. On est en train de le suivre pour aller chez lui, puisqu'il a été agressé à son domicile. C'était en juin dernier. Il a pu porter plainte. Il a été agressé par le compagnon de l'une de ses voisines pour ce qu'aurait dû être et simplement être une querelle de voisinage qui s'est terminée en agression avec des coups et des insultes comme « sale arabe ». On va en discuter avec lui et sa femme. Dans votre cas, Abdallah, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous pensez que c'est une agression contre vous, citoyen musulman?
Parce qu'il m'a adressé des mots, sale arabe, sale musulman, c'est nous qui vous payons le loyer, c'est nous, c'était pas nous, vous n'existez pas. Vous voyez, des mots vraiment qui touchent. Vraiment, ça m'a perturbé, ça m'a changé toute ma vie. Je suis ici presque un an et demi là maintenant, dans ce quartier, comme vous voyez, c'est calme.
C'est très pavillonnaire, très calme.
Ouais, très calme, déjà ça me plaît, avec tous les voisins et tout. Mais après ce qui m'est arrivé, là maintenant déjà je commence à réfléchir pour quitter les lieux, parce que j'ai reçu vraiment des mots qui m'ont fait mal.
Est-ce que votre vie est la même depuis cette agression?
Non. Ça a changé les habitudes, ça a changé beaucoup. Je ne bouge plus par rapport à avant. Avant, j'ai la volonté à tout, soit au travail, soit pour mes projets à l'avenir et tout. Je suis un type qui aime son travail beaucoup. Mais après le cas, j'ai des idées perturbantes, vous voyez.
Quand vous vous rendez au commissariat pour porter plainte, vous leur dites, il m'a dit ça à l'arabe, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Est-ce qu'ils mesurent le caractère raciste de l'agression?
Au commissariat, ils ont fait le travail. Mais avant que je parte au commissariat, quand je l'ai appelé au téléphone, moi, ça m'a surpris. Ils n'ont pas intervenu. Ils ne sont pas venus, malgré je lui dis qu'en quoi il y a un type qui vient de me menacer de mort. Il m'a dit, viens, je vais te faire un coup de fusil. Alors, il y a un fusil quelque part. Quand j'ai dit ça à la police, ils n'ont pas intervenu. Ça m'a choqué.
Parce qu'avant de porter plainte, vous les appelez en disant, voilà,
ouais,
j'ai reçu ces menaces de mort.
Oui, je les appelais trois fois.
Et ils ne viennent pas.
Ouais. Je n'ai pas senti qu'en quoi je suis protégé.
Votre épouse est trop timide pour me parler, mais peut-être que vous pouvez vous m'expliquer, Abdallah, ce qu'elle ressent. Quand vous n'êtes pas à la maison, par exemple, quand elle est toute seule, comment elle vit?
Elle a toujours la peur. Elle ferme les fenêtres, elle ferme la porte. Elle ne bouge plus. Paniquée depuis le cas par rapport à moi.
Parce qu'elle était là quand vous avez reçu les coups.
Ouais.
Quand l'agresseur tapait à la porte en vous traitant de sale arabe, elle était là et elle a filmé, c'est
ouais.
Ça
ouais.
Qu'est-ce que tu viens de me casser?
Ah bon?
Ouais. Je vais rester bien un chauffeur. Oh, moi je suis chef d'entreprise.
J'ai demandé mon droit.
Mais trois
yeux, tu vois, t'as une
croix de con. Mais sors de chez toi, c'est là.
Allez, là, il y a une première claque.
Arrête, vous êtes mal éduqué.
C'est à moi de faire l'éducation, mon pote.
Ouais,
mais moi, je travaille.
Moi aussi, je travaille.
Mais non, tu travailles pas, mon pote. Eh ben, ça me regarde, parce que moi, c'est moi qui paye ton loyer, pauvre con.
Tu payes pas mon loyer. Je paye les charges, je paye tout.
Mais tu payes rien,
je paye tout.
C'est la CAF, je paye les trucs. Que c'est moi qui paye ton loyer, pauvre con. C'est moi qui paye ton loyer.
C'est vous le con.
Respectez vous-même. Là, il s'est rentré.
Alors, la prochaine fois, vous êtes en train de rentrer chez
moi. Non, essaye de rentrer chez
moi. Alors, il est rentré, je vais faire le rapporteur.
Ces propos-là, vous les aviez déjà entendus?
Non, c'est la première fois. Elle m'a tapé deux fois sur la joue.
Vous êtes suivi psychologiquement?
Là, maintenant, ouais. Je suis chez un psychologue, moi et ma femme.
Suite à cette agression?
Ouais. Je suis marqué par l'épreuve. Je vis le calvaire.
C'est l'heure de l'une des prières quotidiennes dans l'une des deux mosquées que compte la ville d'Albi, l'une des 17 du département du Tarn.
Tiens, casse-toi.
C'est la fin de la prière.
Voilà, c'est ça.
On est avec Cyril. Vous avez parlé à d'autres musulmans qui fréquentent cette mosquée et beaucoup ne souhaitent pas me parler parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis des médias. C'est ce qu'ils vous ont dit?
Tout à fait. En fait, il y a une vraie méfiance des médias en général et des politiques. Hein. Même, il y a une fracture qui est faite du fait de ce climat ambiant on sent que voilà, on n'est pas les bienvenus pour certains. Et de ce fait, ben en fait, comment se plaindre et à qui se plaindre quand ils sentent que en fait les gens sont contre eux. Enfin, c'est...
Est-ce que parfois vous parlez avec les gens qui fréquentent comme vous cette mosquée, de ce que vous entendez, de ce que vous vivez au quotidien, ou c'est quelque chose que vous taisez et que vous gardez pour vous ?
Non, habituellement on n'en parle pas.
En vrai,
ouais, ça reste entre nous. Enfin, on n'en parle pas entre nous, quoi. On en parle en famille, peut-être. Mais entre les frères de la communauté, on n'en parle pas. Hein. Mais c'est toujours présent, quoi. En fait, c'est la constance qui est difficile. C'est le fait de la constance. On voit que ça ne change pas. On vit avec, hein. Ouais, en vrai, c'est ça. On vit avec.
Vous vous sentez comme un sous-citoyen ?
Un souci du citoyen. Voilà, c'est ça. Un souci du citoyen.
Je vous propose d'aller en parler plus longuement chez vous, si vous êtes d'accord, Cyril.
Bien sûr. Bien sûr. Pas de souci. C'est la première fois que je suis interviewé. Donc...
Ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Cyril, très rapidement votre histoire. Vous avez 34 ans et depuis 6 ans, vous vous êtes converti à l'islam. Donc vous avez connu votre vie de Cyril ici Albi non musulman, voilà. Et votre vie depuis 6 ans de Cyril Albi musulman. Qu'est-ce qui a changé ?
En vérité, beaucoup de choses, parce que c'est un cheminement. En fait, ça a commencé par des questions. Et malheureusement, autour de moi, eh ben, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, beaucoup de tout autour de moi, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, au niveau de mon travail. Il y a eu beaucoup de tris qui se sont faits, mais sans ma volonté, en fait. Ça s'est opéré seul.
Ça s'est limité à des questionnements où il y a eu des regards, de la suspicion permanente.
Un mélange de tout ça, en vérité. Un exemple, ben, je pourrais donner celui de mon récent poste de nuit à la maison de retraite où je suis, là, en ce moment, où ma collègue de travail avec qui j'ai commencé, lorsqu'elle m'a vu la première fois avec la barbe, elle s'est dit « Ah, lui, ça n'est un, c'est sûr, ça n'est un ». Et c'est ce qu'elle s'est dit, parce qu'après coup, on a eu des conversations, et elle m'a fait part de son inquiétude des premiers instants, parce que ben, il y avait cette appréhension énorme hein, qui grandissait en elle, mais il a fallu que je désamorce tout ça, que je lui explique qui j'étais. Et au fur et à mesure des nuits qui sont passées, son inquiétude a littéralement s'est évaporée, hein. Mais ça a demandé beaucoup de la patience, de l'écoute. En fait, ce travail-là, c'est pas qu'à eux de le faire, c'est aussi à nous. Ça, il faut le comprendre.
Vous, quand vous épousez la religion musulmane il y a 6 ans, la religion est déjà largement stigmatisée dans le champ public, dans le champ médiatique, une partie du champ médiatique. Est-ce qu'il y a quand même un moment dans votre cheminement où vous dites « ça va pas être simple » ?
Oui, tout à fait. Ça, il faut se le dire. En fait, je me le suis dit dès les premiers instants. Mais en fait, cette envie de cheminer était beaucoup plus forte, en fait. Avec toute la certitude que cela allait poser comme problème dans ma vie au quotidien. Enfin, c'est pas tellement au quotidien, mais c'est dans des... passage de la vie, on va dire. Par exemple, lors de la recherche d'un travail, lors de la recherche d'un logement. Mais des situations comme ça, j'en ai vécu, surtout dans mon cadre professionnel, dans le cadre professionnel. Mais c'est beaucoup plus des suspicions, en fait. C'est pas vraiment des choses flagrantes. C'est pas des choses qu'on va pouvoir facilement démontrer.
C'est dénoncer.
Et donc dénoncer, forcément. En fait, on a banalisé ce qui est inacceptable, en fait.
En 2012, c'est la création de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Elle est là pour animer la politique de l'État en matière de lutte contre les discriminations. Dans son programme, pas un mot spécifique sur le racisme anti-musulman. Nous nous rendons à Strasbourg pour y rencontrer Anan Karimi. Elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de la Ville et elle s'interroge sur la volonté de l'État de s'emparer véritablement du problème. Elle parle même de déni d'islamophobie.
C'est comme ça que j'ai interprété le traitement politique de ce qui constitue pour moi un attentat à la mosquée de la Grande Combe où a été tué Aboubacar Cissé. Donc déjà, la lenteur de la reconnaissance, de la présence politique face à un drame qui est un drame national. Il n'y a pas de différence pour moi entre l'islamiste qui tue le père Hamel et cet homme qui entre dans une mosquée et qui tue un fidèle. Pour moi, c'est la même horreur. C'est la même violence. Sauf que la lutte contre le terrorisme prend une place importante aujourd'hui en France. Et en fait, on voit bien que dans le discours politique, il y a un amalgame, même si de manière rhétorique, on dit pas d'amalgame. Dans les faits, il y a des amalgames entre des musulmans ordinaires qui sont croyants, qui sont pratiquants et des islamistes. Là, avec ces discours, en fait, qui banalisent complètement l'islamophobie sous couvert de lutte contre le terrorisme, eh bien, on est en train de fragiliser la démocratie.
Cette lutte contre l'islamisme, selon vous, fait du musulman forcément un danger, une menace pour la société, mais ne peut pas être victime, c'est pas possible. C'est ça qui infuse dans les esprits ?
C'est absolument ça, et la disqualification de la victimation, victimisation. Un musulman, une musulmane ne peut pas être victime. Il l'a forcément cherché, il est forcément un suspect. J'allais dire pas un danger, mais suspect. Vraiment une politique de suspicion qui construit les musulmans et les musulmanes comme ayant un agenda caché, potentiellement dangereux, donc suspect.
Vous-même, vous êtes accusé dans vos travaux universitaires de faire le jeu des islamistes, en résumé, alors ?
Et ça vient de collègues, hein, parfois, qui, quand on travaille sur l'islam, quand on fait comme moi un livre qui humanise les femmes musulmanes, tout simplement, eh bien, on est suspecté, pareil, d'avoir un agenda caché, de travailler pour des islamistes. Il y a même une... Alors, je crois que c'est une journaliste indépendante qui fait des papiers sur moi en m'appelant Sœur Anan, où elle dit que je suis une islamiste.
Vous auriez un nom de famille proche du mien, vous n'auriez certainement pas ces accusations, pensez-vous ?
Oui et non, parce que depuis 2021, il y a quelque chose qui a changé, c'est l'accusation lancée par le gouvernement et notre ministre de tutelle de l'époque, donc Frédéric Vidal, d'islamo-gauchisme. Donc, quelqu'un qui, peut-être vous, je ne vous le souhaite pas, mais quelqu'un qui documente l'islamophobie a forcément une forme de connivence et donc est disqualifié, tout comme sont disqualifiés les chercheurs et les chercheuses, les artistes, enfin c'est pas seulement à l'université, c'est un peu partout, les personnes qui travaillent sur cette question. C'est coûteux de parler d'islamophobie, c'est vraiment anxieux comme environnement. En fait, il fait pas bon être musulman aujourd'hui en France.
Islamophobie ordinaire, un reportage de Vanessa Descoureaux.
France Inter, Interception.
Allez, on va voir les vaches. Vous allez rencontrer Aurélie et Charlotte. Aurélie est éleveuse de vaches laitières dans le Finistère. Elle s'en occupe avec son mari et elle va partir en vacances. Charlotte est agricultrice remplaçante et c'est elle qui va s'occuper des vaches en attendant. Le système est peu connu du grand public, il existe pourtant depuis plus de 50 ans. Dans le Finistère, il s'appelle tout simplement Finistère Remplacement. C'est une entreprise spécialisée qui met en contact les agriculteurs qui veulent souffler et ceux qui vont s'occuper de la ferme à leur place. On pense souvent que les agriculteurs ne partent jamais en vacances. En réalité, 75% des moins de 40 ans s'autorisent des pauses. On parle aussi le plus souvent de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ces deux femmes-là ont de la chance, elles gagnent bien leur vie et elles le disent. Annaëlle Verzo était là, le jour de la prise de contact, la veille du départ en vacances, présentation de la ferme, du matériel et de thyroïde, périnée ou abdos, les vaches.
Je viens d'arriver à Kerion, sur un domaine agricole. Il y a un magnifique lever de soleil. On va faire connaissance avec Aurélie, qui est la propriétaire, l'agricultrice, et Charlotte, qui est la remplaçante.
Bonjour, Annaëlle, du coup.
Bonjour.
Charlotte.
Alors, juste, je précise, donc là, il y a Charlotte qui vient d'arriver. Il est 8h30 du matin. C'est le moment de le top départ. Aurélie, vous allez donner les instructions à Charlotte, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça. Ouais, donc du coup, je disais que du coup, les vaches sont que au pâturage, donc il n'y a pas de foin, il n'y a pas d'alimentation, donc voilà, il faut les traire en fait et les remettre au champ. On a aussi deux autres lots de génisses qui sont sur des parcelles un peu plus loin de la ferme. Et puis, donc voilà, on va faire la traite ensemble pour voir les vaches. Et ensuite, l'autre truc à voir aujourd'hui, c'est l'ordre de pâturage, quoi. C'est-à-dire dans quelle parcelle vont aller les vaches ces 15 prochains jours. Et puis voilà, quoi.
D'accord. Donc Charlotte, vous allez être toute seule pour faire tout ce travail-là.
Oui, voilà,
ouais. C'est ça.
Ouais.
Charlotte, vous avez quel âge ?
23 ans.
Vous avez commencé il y a combien de temps à faire des remplacements comme ça ?
Chez Finistère Remplacement, j'ai commencé il y a un an. Mm-hmm. Et sinon, j'ai fait 4 ans dans une autre entreprise de remplacement, parallèle de mes études, quoi.
Et vous venez de loin ?
Sker. C'est à 20 minutes.
Donc là, d'abord, on va ramener les vaches de l'autre côté.
On va ramener les vaches. Et puis là, c'est la saison où nous, elles sont un peu momoles. Donc ça prend du temps. Parce que
avant,
ça fait longtemps qu'elles ont eu des veaux. Donc du coup, elles ont moins la mamelle tendue. Donc
ça file pas.
Ça file pas.
Vous avez combien d'hectares de terrain ?
On a 85 hectares et on a, là, on a 72 vaches. Et on a une trentaine de génisses en plus, quoi. Donc on fait du lait bio et on le vend à la laiterie. Donc c'est un système, on va dire, assez simplifié quand même. C'est pour ça que c'est possible de se faire remplacer par une personne, même si nous on est deux, parce qu'il n'y a qu'une traite par jour. Et les vaches vont au champ. On ne doit pas distribuer d'alimentation, quoi. Donc voilà, ils sont là.
Ah voilà, les vaches, en pleine nature.
Il faut toujours aller au fond de la parcelle et après les ramener. Et là, regardez, ça c'est une vieille vache. Elle commence à se lever, elle appelle les autres.
C'est bon, elle va partir.
Parce qu'il y a toujours une chef dans le troupeau.
Allez, allez, là !
Alors, comment ça marche, le service de remplacement des agriculteurs ? Eh bien, si Aurélie veut partir en vacances, elle réserve un agriculteur, comme Charlotte, sur le site de Finistère Remplacement. C'est l'entreprise qui emploie les agriculteurs et qui gère absolument tout, l'administratif, les fiches de paye, les congés, etc. Mais c'est un service qui a un coût. C'est 80 euros par jour pour l'agriculteur, après déduction fiscale.
Allez, on y va, là !
On se trouve en plein milieu de la parcelle. On la traverse. C'est des belles vaches, hein ?
C'est des vaches qui sont adaptées pour le pâturage, en fait.
C'est aussi plus facile quand on est plusieurs. C'est qu'on est chacune de,
d'un côté,
d'une extrémité du champ et on les pousse. Elles avancent d'elles-mêmes, quoi. Mais quand on est toutes seules, il faut faire chien de troupeau. Il faut faire des arcs de cercle pour les ramener.
Ça prend plus de temps.
Ça prend plus de temps, ouais. Sauf quoi, elles n'ont pas envie. Allez, on y va, les filles, là ! Allez !
Il y en a deux qui se battent.
Ils se battent pour la... savoir qui est la chef.
Chut, vous arrêtez !
Voilà, elles sortent.
Allez, allez, là, là, allez !
À 70 vaches hein, qui remontent, c'est vrai que ça prend un peu de temps.
Allez, s'il te plaît, là ! Hé !
On s'est installé loin de notre famille, moi je viens du Loir-et-Cher et mon conjoint il a grandi en région parisienne et on avait un bébé, on s'est dit tout de suite ben c'est un marathon l'installation, c'est pas un sprint. Et donc en fait on s'est installé en janvier et en avril la nounou avait une semaine de vacances et on s'est dit mais en fait on se sent pas, on avait beaucoup de travail à cette époque là, on se sentait pas de faire la semaine avec notre bébé et la ferme, donc on a pris une semaine. Et puis en fait, on est parti, bah ça nous a fait vachement de bien de redescendre en pression, de se retrouver. Enfin voilà, c'était vraiment très important, surtout au tout début, d'avoir cette pause-là. Puis en fait, tout s'est bien passé, les vaches étaient traites. Enfin voilà, et du coup, on s'est dit, bah en fait, faut le faire parce que ça marche. Et puis nous, on a l'impression, quand on est que sur notre ferme, que c'est compliqué, qu'il y a tel et tel truc. Mais comme vous, les remplaçants, vous travaillez sur plein de fermes, en fait, il y a plein de choses qui se ressemblent.
C'est vrai que
c'est Charlotte qui parle.
Oui, pour les éleveurs, bah, c'est un peu leur bébé, quoi. Donc c'est difficile de le confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Allez,
on avance. Donc là, il y a des pommes.
Plusieurs étapes. Il y a les châtaignes, après il y a les pommes. Avance.
Ah, c'est beau. C'est là que je vais vous prendre en photo, alors.
Avec les vaches, sinon on
peut oublier.
Ah oui, avec les vaches.
Du coup... Il y en a une qui est une vieille Holstein là, qui boite un peu, elle est souvent dernière, mais juste elle est lente.
Ok.
Allez, allez, là, allez.
On arrive à l'étable.
Voilà, là on ferme.
Voilà. Elles sont rassemblées. Oh, ça râle.
Oh là.
Vous prenez des gants pour la traite et un tablier aussi pour pas vous cacher.
Ouais, c'est assez humide et tout quand même, la traite, c'est...
Les vaches qui sont traites sont installées les unes à côté des autres par lots de 7 ou 8. Elles sont un peu en hauteur, sur deux quais qui se font face, un peu comme des quais de gare. Elles se laissent complètement faire. Aurélie et Charlotte, elles, veillent à ce que tout se passe bien. Et quand la traite du premier lot de vaches est terminée, elles font entrer les suivantes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 71 vaches soient traites.
Magie opère.
Voilà. Là, c'est Charlotte qui vient d'enclencher les appareils pour traire. Voilà. Aurélie est en train de poser les griffes sur les mamelles des vaches qui sont disposées les unes à côté des autres. Ah, ça y est, on voit le lait qui s'écoule.
Et ben voilà, du coup, on va lancer le tank et puis on va faire un café.
C'est quoi le tank ?
Alors, c'est ça.
C'est une espèce de cylindre.
Ouais. Comme une citerne.
Ouais, c'est ça.
Qui refroidit le lait.
Ça va, Charlotte ?
Oui, ça se
passe
bien ?
Oui, ça se passe bien.
Bon, t'as écrit 1942 sur le bras, c'est un tatouage et un petit papillon
c'est
aussi.
Pour ma grand-mère. 1942, c'est pour ma grand-mère. Ouais, son année.
Son année de naissance. Et là, qu'est-ce que c'est ?
Ah, une petite vache.
On est toujours dans la salle de traite. Et Charlotte, vous me disiez tout à l'heure que le travail se féminisait un petit peu. Est-ce que c'est difficile d'être aujourd'hui une femme jeune ? Est-ce que des fois, il faut s'imposer quand même ?
Oui, il faut s'imposer, surtout quand on est une jeune femme. Il faut s'imposer, dire qu'on est capable de faire autant qu'un homme. Voilà, parfois, il faut un peu plus prouver, quoi. Mais après, généralement, ils arrivent à voir qu'on est autant capable, en fait.
Et je vois, physiquement, vous êtes même assez féminine. Vous avez mis des boucles d'oreilles, vous avez les ongles qui sont bien faits, préparés, des bagues. Ça vous empêche pas d'être féminine ?
Ah non, du tout. Ah non, non, non. Il faut pas croire que toutes les femmes qui travaillent dans l'agriculture sont... Enfin, ne prennent pas soin d'elles, au contraire. Puis c'est vrai qu'on peut avoir des a priori, voilà. Donc il me pose la question de « est-ce que tu arrives à travailler avec tes ongles et tout ?» Je dis « bah oui, j'arrive à travailler, il n'y a pas de souci là-dessus. » On en rigole généralement, et puis moi j'en rigole avec eux aussi. Donc,
Est-ce que vos parents sont eux-mêmes agriculteurs, éleveurs ?
Ah non, du tout, mes parents ne sont pas du tout du milieu agricole. Mon père avait, avec ma belle-mère, une entreprise de désamiantage à Brest. De toute façon, je savais que je voulais travailler avec des animaux, je savais pas dans quoi forcément encore, mais j'ai découvert ce métier-là en faisant des stages, et ça m'a beaucoup plu. Et je compte bien y rester encore quelques années, mais ça c'est sûr, c'est très compliqué de s'installer toute seule. C'est pour ça que faire du remplacement, ça me permet de voir plein de fermes différentes avec des systèmes hyper variés. Du coup, ça me permet un peu de voir pour plus tard sur quoi j'aimerais m'installer. Et après, là, du fait qu'il y ait des éleveurs qui arrivent presque à l'âge de la retraite, il y en a qui nous disent « bah voilà, je vends ma ferme dans 5 ans, est-ce que tu serais intéressé de t'installer ?» Parce que du coup, ils voient comment je travaille, et, enfin, ma manière de penser sur l'élevage. Et du coup, parfois, ils me disent bah, « tu vois, tu pourras reprendre, dans 5 ans, je vends, ça serait bien si ça soit toi qui pourrais reprendre la ferme. » Mais bon, là, j'ai que 23 ans, je me dis « je suis encore jeune, j'ai pas forcément envie de m'installer maintenant. » Peut-être quand j'aurai 30 ans, peut-être que là, j'aurai eu du temps aussi pour moi. Et après, là, je pourrais m'investir totalement dans une ferme.
Et Charlotte, vous arrivez à en vivre ou pas ?
Ah oui, 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 totalement. Ouais. C'est qu'on est quand même bien payé.
Vous êtes payé combien ?
On est payé, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas.
Je sais pas. Ou alors.
Ben, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a des éleveurs parfois, ils disent qu'on est trop payé, qu'on est trop payé pour ce qu'on fait.
Personne va être choqué de comment t'es payé. Hein.
Je suis millionnaire, voilà. Non, non, je suis payé en tout. Je suis un contrat de 39 heures, compris avec des week-ends, et je suis payé autour des 1 800-2 000, quoi. Ça varie en fait. C'est pas trop payé, c'est juste que bah, quand on remplace par exemple des éleveurs qui parfois ont du mal à se verser 800 euros, bah, derrière, j'ai pas envie de me vanter que je gagne tant, quoi.
Et vous-même, vous vous payez combien pour vous et pour votre mari ?
Nous, on se paye bien. On est très regardant en fait sur les charges et tout ça. Donc voilà, on essaie de faire de la marge en fait. Et on a choisi une ferme qui s'adapte bien à ça. Et donc là, on est dans les années où on a fini les premiers emprunts. Donc du coup, chaque année, on fait un peu mieux parce qu'on voilà, on a nos vaches sont meilleures. Aujourd'hui, elles sont vraiment meilleures que quand on s'est installé. Donc voilà, donc nous, on a l'impression d'être bien lotis, quoi, entre le travail et l'argent.
Ouais. C'est tant mieux. Ouais, en fait, c'est hyper stimulant et positif de savoir que toutes les deux, vous estimez que vous vivez bien.
Et en fait, moi, du fait que je venais un peu du milieu, quand même, environnement agricole, pour moi, le métier d'agriculteur et d'éleveur, c'était un métier de fierté, quoi.
Si Aurélie et son conjoint, Madeg, gagnent bien leur vie, c'est grâce à leur modèle économique, mais aussi grâce à la qualité nutritive de leur lait bio, particulièrement crémeux et gras, et donc vendu plus cher aux coopératives qu'un lait moins riche.
Enfin, les vaches sont très sympas. Et par exemple, celles-là, enfin, on peut les caresser, on peut leur faire des petits câlins, et je trouve ça... c'est mon côté un peu cucu la praline, quoi. J'aime bien.
Sans faire caca.
Les vaches, quand on les déplace, elles bougent, en fait. Attention.
Hop, on s'éloigne. Parce que sinon, on va se prendre des éclaboussures.
On est
repeintes.
Ah oui, d'accord, là, ça y est.
Ouais, ça va vite. Ouais, hein.
Vu qu'elle n'a pas bougé depuis un petit moment, bah, dès qu'elle va bouger, en fait, hop là.
Ça stimule.
Vous leur parlez, hein, je remarque, vous leur parlez à vos vaches, Aurélie.
Ouais. Je leur fais des longues phrases. Celle-là s'appelle thyroïde, périnée, abdos.
Il y a des mâles, non? Non, il n'y a pas de mâles.
Nous, on n'a pas de taureau, en fait, pour des raisons de sécurité.
C'est dangereux.
Un taureau, c'est, en fait, c'est dangereux, Charlotte. Pas forcément pour vouloir nous faire du mal. En fait, généralement, c'est plus pour jouer. Mais bon, ça fait une tonne, quoi.
Et avec les filles, ils sont pires. Parce qu'ils sentent les cycles menstruels aussi, donc du coup c'est vrai que quand on engage un salarié qui lui doit faire ce qu'on lui dit entre guillemets, enfin voilà, c'est
vous notre... pouvez pas lui imposer des choses dangereuses.
Ah ouais, non.
Ah, faut pas laisser là, c'est pas celle-là. On recule
dessus. Pourquoi elle peut pas passer?
Alors oui, il y a l'ordre des quais, et ensuite il y a celle qui préfère être devant, et il y a celle qui ne supporte pas être devant. Là par exemple, là elle va être devant, elle va vouloir sauter peut-être la barrière, elle va pas être à l'aise.
Elle a suivi les autres, mais elle voulait pas être première, donc je préfère faire ça.
Ah, c'est les dernières. Et Charlotte, est-ce que vous arrivez, vous, à partir en vacances?
Ah oui. Nous, on a 5 semaines de vacances avec l'entreprise. Donc là, j'en ai pris cet été, j'ai pris 2 semaines. Comme on est salarié, on a 5 semaines de vacances par an.
Et vos prochaines vacances, c'est quand?
Je ne sais pas encore. Ouais. Nous, on travaille sur les périodes, par exemple, Noël, jour de l'an, les vacances scolaires, l'été. Et aussi selon les périodes voilà, de travaux des champs, de l'ensilage, de la moisson. C'est là où, du coup... on est plus sollicité pour justement faire la traite, s'occuper des bêtes, le temps que bah, les éleveurs fassent les travaux au champ et tout quoi. Mmh. Du coup, bah, c'est vrai que je ne sais pas encore. Là, pour l'instant, j'ai déjà des remplacements normalement prévus pour Noël et jour de l'an. Donc, je partirai, je ne sais pas.
Après.
Après, voilà.
Voilà, c'est la fin de la traite qui aura duré en tout 2 heures. Charlotte passe le balai brosse dans l'étable. Aurélie nettoie les griffes de traite au karcher. Pendant que les vaches rentrent toutes seules au champ.
C'est le moment des consignes où on commence à se sentir en vacances. Quand on se projette et tout.
Il y a le avant aussi.
Mais le avant, c'est sport.
Ouais. Le avant, c'est-à-dire.
Généralement, les éleveurs essayent de tout préparer pour éviter que ça soit trop compliqué pour nous, surtout quand on est tout seul sur la ferme.
Oui, ça vous demande un peu plus de travail avant, c'est ça.
Sport, ouais. Là, l'automne, tout est plus cool, mais l'été, c'est toujours. Il y a toujours un moment où je me dis, donnez tout pour partir en vacances. Des fois, tu dis, ouais,
est-ce que ça vaut la peine?
Ouais, bah, quand t'es dedans, là, nous, souvent, on n'a pas les enfants juste avant de partir en vacances. Donc, on se dit, oh, c'est cool, on va aller au resto et tout. Puis en fait, on se retrouve à avoir un planning, genre, faut faire ça et tout. Et puis après, on lâche la ferme. Et là, oh, on se dit, non, ça vaut le coup.
Mais il y a des fermes qui sont tellement compliquées que même pour nous, c'est plus compliqué de remplacer dans ce genre de ferme-là parce que bah, c'est trop, par exemple, c'est trop le bazar, c'est trop, y a trop de petites bricoles sur une seule même chose. Et du coup, pour nous, c'est juste pas possible, quoi.
En fait, plus on se fait remplacer, plus la ferme est remplaçable parce qu'on a l'habitude. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent 12 ou 13 heures ou 14 heures par jour. Bah, du coup, c'est difficile de
d'arriver
les remplacer.
À faire 8 heures, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est compliqué aussi, quoi.
Il y a un de tes collègues là, qui a pas mal d'expérience et qui, une fois, il me dit oh, moi, ce que j'adore, c'est quand. Bah, les situations d'urgence, quoi. C'est-à-dire, t'arrives sur une ferme, personne te donne de consignes, tu vois de qui je parle. Voilà, c'est hyper compliqué. Et lui, et je lui dis, oui, mais ces gens-là, imagine, c'est des gens qui travaillent 12 heures par jour, comment toi tu fais pour travailler 8 heures? Et il dit, mais moi je simplifie tout. Parce qu'en fait, les remplaçants, ils ont cette compétence-là, en fait, l'habitude. Nous, on est dans notre ferme à nous. Il dit, oh, moi, il y a plein de trucs que je simplifie, et en fait, j'arrive quand même à tenir. Comme quoi, ça veut dire que c'est toujours possible, je pense. Mais dans l'agriculture, comme dans les autres métiers, c'est que plus on a la tête dans le guidon et plus on est dans le dur, moins on arrive à prendre du recul et à voir où on peut gagner du temps.
Il y a un partage aussi derrière. Quand nous, on remplace sur des choses, il y a des petites bricoles ou des petites choses et on partage ça à des éleveurs. Je sais pas, un truc tout bête, par exemple, il y a des blocs de sel dans la table d'alimentation. Il y en a qui posent juste comme ça, il faut le pousser tous les jours et c'est je sais pas combien de kilos ouais. ça pèse hyper lourd. Et il y en a qui mettent des chaînes ou de la corde. Et du coup, tu dis, ah bah tiens, tu pourrais mettre ce système-là pour éviter de le pousser tous les jours. Ou il y a d'autres choses, il y a d'autres. Bon, là, ça ne vient pas à l'esprit, mais ouais. Il y a plein de choses que dans des fermes, les agriculteurs font et que nous, derrière, on a vu et on dit, c'est super, c'est hyper pratique, c'est génial. Et on va le partager avec d'autres éleveurs. Donc, tant mieux.
Celle qui remplaçait les agriculteurs. Un reportage d'Anna Alverzo pour Interception. À la production, cette semaine, Xavier Yvon et Antoine Gignot. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Charles De Silia. Martine Messonnier est chargée de programme. C'est Anne-Laure Cochet et Alex Olaré-Ouajo-Tinoua qui assuraient le mixage. Romain Couturier est chargé de la documentation musicale. J'en profite aussi pour vous dire la fierté d'Interception. Antoine Gignot a remporté le grand prix du reportage Radio France pour Collégienne à vendre, un sujet sur la prostitution des mineurs qui vous avait fait beaucoup réagir. Diffusé le 12 octobre dernier, vous pouvez bien sûr le réécouter en podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.